7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous passerons la semaine ensemble et ça me réjouit. Aujourd'hui, les voisins, nous allons parler du management. Selon le théoricien américain Peter Drucker, le management, c'est rendre les individus capables de performances collectives, de rendre leurs forces effectives et leurs faiblesses négligeables. Comment on réussit ça ? Et la question est cruciale puisque d'un management efficace dépend la santé économique de l'entreprise et plus loin de la nation. La santé, justement, celle des salariés aussi est en jeu. Quand on parle de management, les chiffres sont édifiants. Le stress, grande maladie du management, représente 4% du PIB et coûte 60 milliards d'euros à la sécurité sociale. 62% des salariés français se sentent très stressés et 30% estiment que leur travail est susceptible de leur causer de graves troubles psychologiques. Qu'est-ce qui se passe? Comment sommes-nous arrivés là? Comment repenser le management, en français la gestion du travail de groupe? Je tente une définition. Deux invités avec nous pour en parler. Corinne Berthaud, manager,
bonjour,
manager de transition et auteur de cette comédie qu'on appelle Le Travail chez Calman Lévy. Et François Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Sociologue des organisations et auteur de La faillite de la pensée managériale, Lost in Management 2. Merci à vous deux d'être là. Les voisins, vous aussi, vous êtes là et heureux. Vous êtes le sel de cette émission, alors dites-nous comment le management est vécu, organisé chez vous, là où vous vivez, ce qui marche bien, ce qui devrait changer. 33 1 84 22 71 71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum.
Sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et je vous propose d'aller tout de suite au cœur de la matrice, du côté du manager, car qui dit management dit manager. Et être manager, c'est aussi être le rouage d'une hiérarchie, cela n'est pas sans difficulté. Écoutez le témoignage d'Olivier, 38 ans, ce directeur d'une entreprise de transport en autocar coordonne 70 salariés, tout en essayant de répondre au mieux à la volonté du président de l'entreprise. Les propos sont recueillis par Antoine Lalanne-Desmet.
En fait, le manager est toujours entre le marteau et l'enclume, que ce soit vis-à-vis de sa hiérarchie ou vis-à-vis de ses subordonnés. Vis-à-vis de sa hiérarchie, c'est de défendre parfois des points de vue qui ne sont pas en cohérence avec ce que voudrait, par exemple, un président qui vous dit « il faut jouer que tous mes cars soient roses parce que j'aime le rose ». Oui, très bien, vous aimez le rose, mais vous comprenez que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Et on se retrouve dans la même situation avec un salarié qui va dire « moi, je veux travailler que du lundi au vendredi, de 8h à 17h ». Oui, monsieur, vous comprenez que c'est pas forcément ce qu'attend l'entreprise. Je trouve que c'est là que le rôle du manager est très complexe. Il doit tout le temps se justifier.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en conflit avec votre président, vos supérieurs hiérarchiques ?
Oui, ça m'est arrivé. On avait pris une décision sur une période d'investissement d'autocar où il m'avait demandé une analyse très fine. Donc j'avais fait cette analyse en lien avec un directeur financier et le président m'avait taxé de ne pas avoir participé à cette analyse alors qu'elle venait de moi-même. Ça n'a pas été un conflit où ça a clashé comme on peut imaginer un conflit. C'est simplement, au moins il m'a dit « Mais Olivier, où est votre analyse ? Qui est-ce qui a fait cette analyse ? C'est certainement pas vous. » Et oui, c'est moi qui l'avais fait. Et son objectif à lui était certainement de me dévaloriser pour valoriser une autre personne au sein du comité de direction. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas donner de prise parce que sinon, les autres personnes autour de la table vont dire « Mais il essaie de tout récupérer à lui. » Donc on est un peu dans de la stratégie et donc c'est que là je laisse pas de prise.
C'est pervers quand même, comment vous l'avez ressenti?
Comme tel, comme étant quelque chose de très pervers. Et après, dans ces cas-là, j'ai retrouvé la force dans les choses en me reconcentrant sur mon exploitation. Parce qu'il y a des personnes en dessous qui sont les salariés, il faut surtout pas qu'ils ressentent cette ambiance. Autrement, c'est vous qui, en exploitation, allez devoir en payer les conséquences au quotidien. Et là, c'est pire que tout. Et c'est peut-être même le but recherché à ce moment-là par le président, de vous déstabiliser. Il faut surtout pas lui donner ce qu'il attend. Donc, dans ces cas-là, vous rentrez chez vous. Plusieurs solutions, soit vous faites de la méditation, soit vous prenez vos baskets, vous allez courir. Soit vous prenez une pelle, vous faites un trou dans le sol et vous hurlez. Mais en tous les cas, il y a besoin effectivement d'un exutoire. Il est nécessaire, dans tous les cas, de se défouler parce que, durant ma carrière, j'ai fait 2 burn-out.
Vous avez 38 ans et vous avez fait 2 burn-out. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un de si jeune.
C'est trop parce que j'ai pas été du tout éduqué pour faire le métier qu'aujourd'hui j'exerce. Je suis issu d'un milieu ouvrier, donc pour moi, le milieu ouvrier, mes parents m'ont éduqué à travailler, à besogner, à taper dans le dur, comme on dit, hein, travailler 10, 12 heures par jour pour m'en sortir. J'ai pas eu de diplôme, j'ai eu un bac professionnel hôtellerie et restauration, donc ça, c'est l'origine de mes études.
Rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui.
Non, tout à fait rien à voir. Donc, comme je vis les choses à 100% et que je suis quelqu'un d'entier, ben, j'ai vécu les choses en pleine poire. C'est-à-dire que quand un conducteur vous envoie balader ou est malveillant, ben, vous le prenez pour vous personnellement. Et pour moi, ça a été deux riches enseignements, c'est deux burn-out, parce qu'on ne s'y attend pas du tout. On se dit qu'on va encaisser, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 35 ans, on a toute la vie pour récupérer, sauf qu'effectivement, le corps ne récupère jamais. Maintenant, j'ai pris ce recul qui dit, voilà, une entreprise pour moi est une omelette au lardon. À vous de savoir si vous êtes poule ou cochon. À partir du moment où on considère qu'on est cochon, donc qu'on laisse de soi, de sa santé, de sa nature dans l'entreprise et que ça nous pénalise, il y a un moment où il faut se remettre en question. En revanche, à partir du moment où on apporte une valeur ajoutée sans soi-même se détruire, donc la poule, eh bien là je pense qu'on est dans le bon rôle. Et c'est cette attitude-là qu'il faut adopter à mon avis. C'est-à-dire que dans le travail, on est sur une scène de théâtre. Un acteur, rien n'empêche pour lui de jouer avec ses tripes et avec ses convictions, mais il joue un rôle. Et dans l'entreprise, je joue un rôle. J'ai une fiche de fonction, j'ai un titre, comme pour un acteur. Un acteur, ce qui fait sa valeur, c'est aussi sa sincérité, sa capacité à accepter ou à refuser certains rôles. Et bien un directeur, pour moi, ça doit être la même chose. Ou alors, c'est une marionnette. Et ça, c'est le rôle du manager, c'est de donner une âme à la ligne directrice qui peut être fixée par la direction générale ou par la présidence. C'est de concrétiser ça dans des actes, dans des chiffres. Une fois qu'on donne ce chiffre, il faut le transformer ça en quelque chose de sexy, j'ai envie de dire, quelque chose qui donne envie aux gens d'atteindre cet objectif. Et comment est-ce qu'on l'atteint? Comment est-ce qu'on en fait une politique d'entreprise? Comment est-ce qu'on en fait un travail au quotidien? Comment est-ce qu'on le concrétise sur le terrain? Comment est-ce qu'on va dire aux gens, on va pas dire, faut atteindre 30%, non, on va leur dire, écoutez, où est-ce qu'on en est dans le boulot, là, les gars, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et les amener tout doucement à prendre les décisions qui nous pensons sont les bonnes pour atteindre ces objectifs. C'est un peu de la manipulation, mais le management et la manipulation sont un peu liés. Parce qu'on amène les gens à penser ou à faire quelque chose que naturellement ils n'auraient pas fait. Mais ce n'est pas forcément négatif, la manipulation, tant que c'est dans l'intérêt général de l'entreprise et donc des salariés.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Burnout, perversion et omelette au lardon, pas joli joli la vie en entreprise. Une première réaction, Corinne Berthaud.
Il parle justement de l'absurdité des ordres, en fait. C'est ça qu'il essaie de traduire dans ce qu'il ressent. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un contrôle permanent dans les entreprises auxquelles sont confrontés les managers. Il faut savoir, par exemple, que 50% des managers concentrent leur activité, notamment sur le reporting, parce qu'il y a un contrôle permanent.
Et que le reporting, c'est justement le fait de faire des rapports
systématiques. Voilà, ils sont concentrés uniquement, bah oui, c'est lié, hein, à partir du moment où vous avez des tableaux Excel à remplir toute la journée parce que justement vous êtes contrôlé, parce qu'il faut rendre compte de votre activité. Évidemment, ça devient compliqué pour le salarié qui n'a plus de place finalement dans son travail, dans la créativité notamment, et dans la possibilité de s'approprier sa fonction. Et c'est là effectivement, quand il parlait, on pense tout le temps à ça. Il y a effectivement un ressassement qui se met en place, parce que quand il disait on est obligé de se justifier constamment, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se justifie, on doit constamment rendre compte. Et c'est une grande difficulté psychologique et psychique pour le manager qui finalement se sent, il le disait, comme un pantin.
Une marionnette.
Voilà, comme une marionnette, comme un pantin. Parce que finalement, les ordres sont dictés et il n'y a plus de place à la créativité. Et c'est une très grande complexité pour ces managers.
François Dupuis.
C'est une histoire classique que l'on vient d'entendre. Elle n'a rien de particulier. Alors, je voudrais en relever simplement deux points complémentaires avec ce que vient de dire Corinne Berthaud. Le premier point, c'est il dit, j'ai pas été formé pour ça. C'est-à-dire, voilà, vous voyez.
C'est-à-dire que personne n'est prêt à faire ça.
Voyez, on forme ces gens qui vont être des managers à des choses qui sont extrêmement complexes. Oui. Je sais pas moi. Enfin, prenez un ingénieur qui construit le viaduc de Millau. C'est simple à construire le viaduc de Millau. Combien de variables faut-il prendre en gros? Prenez, je ne sais pas, un médecin. C'est simple de devenir médecin, connaître la complexité du corps humain. Ah non, c'est pas simple. Eh bien, connaître la complexité des organisations humaines, c'est compliqué. Ah oui, mais ça, on ne forme pas les gens. Ça, c'est la première chose, et on pourra peut-être y revenir. Puis, il y en a quand même une autre. Je veux dire, il culpabilise. Vous voyez, quand il dit c'est de la manipulation, il se reprend tout de suite après en disant c'est pas forcément négatif. Donc, moi, je lui dis non, c'est pas de la manipulation. Je simplifie la définition que vous avez donnée de Peter Drucker. Mm-hmm. Le management, en fait, ça consiste à obtenir que les gens fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Voilà, c'est simple. Et la question qui est posée, c'est comment vous faites pour obtenir des gens qu'ils fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Et ça, effectivement, ça n'est pas aisé.
Et nous allons, nous avons une heure pour en parler et voir comment on y parvient sans faire trop de cases, parce que cette image employée de l'omelette au lardon est assez frappante tout de même. François Dupuis, tout d'abord, tout à l'heure, Corinne Berthaud parlait de reporting. Le thème de l'émission du jour, c'est le management. Comment expliquer qu'on emploie en France, là où on est assez jaloux de la langue, un terme anglais pour désigner une réalité qui est française depuis un certain temps? Depuis quand d'ailleurs?
Oui, mais les Anglais pourraient être très jaloux du nombre de mots français qu'il y a dans le vocabulaire anglais. Enfin, vous voyez, tout le monde sait bien que les deux langues, français et anglais, sont extrêmement interpénétrées.
Il y a des va-et-vient.
Et quand vous parlez de management, vous parlez en même temps de ménage.
Donc, c'est l'origine du mot.
C'est l'origine du mot. Donc, c'est un mot qui est autant français qu'il est anglais. Donc, les deux langues sont totalement interpénétrées. De la même façon que si vous me demandiez pourquoi on parle d'économie, alors que l'économie a comme origine le mot grec oikos, qui désigne le domaine. Donc finalement, vous voyez, toutes ces langues sont interpénétrées, et j'ai envie de dire, ça n'a strictement aucune importance. L'importance, ça n'est pas le vocabulaire, et la national proud, la fierté nationale, que l'on utilise quelque chose qui est bien français, n'est-ce pas? C'est pas ça qui est important, c'est le contenu même du management et ce qu'on en a fait.
Bon, alors, le contenu, justement, depuis quand, est-ce que vous avez une date de naissance du premier manager français?
Non, je sais pas. Vous savez, le management, c'est vieux comme le monde, par définition. Par contre, ce à quoi il faudrait qu'on s'intéresse dans cette émission pour être pratique, c'est au management des entreprises.
Soyons pratiques.
Voilà. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire que le management des entreprises, même s'il a démarré avant, sa première conceptualisation, c'est Taylor et le taylorisme. Voilà. Et à partir de là, on pourrait faire une petite histoire de comment a évolué le management, non pas spécifiquement en France, mais dans les pays développés, puisque ça, c'est autre chose dans les pays en voie de développement. Mais voilà, on peut dater du début du XXe siècle la mise en forme du management et le passage d'un artisanat désorganisé à une rationalisation de la production, et c'est normal, ça avec la naissance de la révolution industrielle.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du management. Quel management aujourd'hui? Vos témoignages nous intéressent via la page Facebook de l'émission ou au standard 33 1 84 22 71 71. Tout de suite, c'est Hozier avec Angel of Small Death and the Codeine Scene.
I watch the work of my kin bold and boyful, toying somewhere between love and abuse, calling to join them, the wretched and joyful, shaking the wings of their terrible youth, freshly disowned in some frozen devotion.
Lay my heart down with the rest of
Death and the Color Insane, c'était Osier dans 7 milliards de voisins sur RFI. Et aujourd'hui, les voisins, nous parlons management avec Corinne Berthaud et François Dupuis. Corinne Berthaud, nous l'avons vu avec le reportage que nous avons écouté en début d'émission. Le manager, c'est vraiment, est vraiment la cheville ouvrière de notre sujet qui est le management. Et parfois, cette cheville peut se blesser et c'est le drame.
Ça peut effectivement être le drame, évidemment, puisque le manager ne peut plus aujourd'hui placer son identité, sa personnalité, parce qu'il est totalement castré, justement, on parlait tout
c'est
à l'heure
du contrôle
permanent.
C'est un peu ce que disait ce manager.
Il disait, on peut plus, et là je relève, puisque c'est vraiment quelque chose que je défends, c'est mon combat, on ne peut plus s'amuser. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plus de place à la spontanéité, il y a plus de place à la convivialité, il y a plus de place au partage, il y a plus de place du coup, évidemment, ça brise les solidarités. Et puis, ça veut dire aussi, c'est ce qu'il expliquait, c'est que d'une certaine manière, il a plus de place à jouer son vrai rôle, parce que le vrai rôle d'un manager, c'est quand même justement de jouer son, d'avoir un rôle de proximité avec ses subordonnés. Et quand il disait, on est pris entre l'enclume et voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est toujours le bâton et la carotte. C'est comme ça qu'on lui demande de réagir. Ce sont les ordres, c'est-à-dire d'oppresser lui-même effectivement ses subordonnés. Parce qu'il est parce qu'il est lui-même oppressé, donc il y a un impact, il y a une répercussion qui se joue et qui fait que finalement il ne se reconnaît pas, parce que le manager au départ il est là pour commander avec le cœur, c'est ce que je reprends aussi dans mon ouvrage puisque je fais référence au général Mauduit qui m'a beaucoup inspiré avec ses préceptes et voilà, commander avec le cœur, inspirer non la terreur mais la confiance, ce sont et puis respecter ses subordonné, il le disait lui-même, je ne me sens plus respecté, parce qu'il ne se sent plus reconnu dans sa personnalité, dans son identité, parce qu'il n'y a plus de place justement à s'approprier son rôle.
Mais alors, justement, Corinne Berthaud, l'état des lieux est assez catastrophique, et vous êtes loin d'être la seule à le faire.
Exactement.
Rappelons quand même que votre ouvrage s'appelle cette comédie qu'on appelle le travail,
tout à fait,
et ouais. Celui de notre deuxième invité, François Dupuis, est la faillite de la pensée managériale. Donc vraiment, là, il n'y a pas d'hésitation, ça ne va pas. Comment expliquez-vous que le management soit si mal pensé alors que les études, toutes, et vos livres en sont, montrent que ça ne va pas? Pourquoi cet entêtement?
Parce que c'est un système qui s'est mis en place où il va être très difficile d'en sortir. Moi, je crois qu'on pourra en sortir. Je crois que ce ne seront que justement les managers qui, à un moment donné, s'ils ont ces prises de conscience-là, se sortiront eux-mêmes de ce système-là, parce que tel qu'il est aujourd'hui, ça va être très compliqué. Donc il faut que ça vienne de toute façon des managers eux-mêmes, et j'ai envie de dire d'une façon générale, de tous les salariés. Je crois beaucoup, encore une fois, à la solidarité, et c'est prioritaire. Donc ça doit venir aussi des managers qui, à un moment donné, quand il dit « je ne me sens pas respecté », il faut qu'il sache se faire respecter. Hein.
Et alors comment on
le
fait ?
Sous-titre du bouquin, c'est « Retrouver sa dignité ». C'est de savoir dire non, déjà. Et de dire « je ne peux pas travailler dans ces conditions, je ne peux pas être productif dans de telles conditions, j'ai besoin d'asseoir des relations avec mes subordonnés ». Par exemple, aujourd'hui, on dit aux managers que les subordonnés doivent s'adapter. Non, ça n'est pas possible. C'est aux managers de s'adapter aux personnalités. Parce que chacun fonctionne différemment. Chacun a une personnalité, une identité.
Et il faut qu'il puisse l'exprimer.
Et il faut qu'il puisse l'exprimer, évidemment, et placer là, justement, sa créativité.
7 milliards de voisins au travail, enfin, une certaine forme de travail, celle qui implique du management. Deux invités pour y réfléchir, Corinne Berthaud, que vous venez d'entendre, manager de transition, et nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste son travail, auteur de cette comédie qu'on appelle Le Travail aux éditions Calmann Lévy, et François Dupuis, sociologue des organisations et auteur de La faillite de la pensée managériale aux éditions du Seuil. Et vous, les voisins, vos réflexions et témoignages sur le sujet au 00 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins et le management. Avant la pause, Corinne Berthaud, l'une de nos deux invitées, nous dressait un bilan pour le moins sombre de l'état du management en France. Et puis, j'imagine que ce constat peut être généralisé à un peu partout dans le monde. C'est à vous, les voisins, de nous le dire au standard 331 84 22 71 71. L'autre invité de l'émission, François Dupuis, est là aussi, auteur de La faillite de la pensée managériale aux éditions du Seuil. Et je voudrais avoir, François Dupuis, votre réaction. Est-ce que vous partagez le constat de Corinne Berthaud dans un premier temps, et ensuite, comment on en est arrivé là? C'est le thème de votre livre.
Alors, oui, je partage le constat de Corinne Berthaud. Elle a dit quelque chose, Corinne, qui est très intéressant. Vous avez commencé tout à l'heure en disant, aujourd'hui, en parlant du manager, il ne peut plus. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il pouvait avant? Voilà. Alors, si on y regarde de près, oui. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Traditionnellement, les organisations du travail, les organisations dans lesquelles on a travaillé, étaient extrêmement protectrices. Alors, non pas protectrices, protéger l'emploi, mais protéger le travail. On faisait travailler ces managers dans des conditions où, ma foi, ils avaient beaucoup d'autonomie. Et ce qu'on a appelé l'autonomie, c'est en fait les silos. Et quand vous faites travailler les gens dans des silos, eh bien, vous leur évitez d'être confrontés aux deux choses qui sont les plus dures dans les organisations. Vous n'êtes pas confrontés aux clients. Il n'y a que dans les business schools qu'on raconte que les clients, c'est merveilleux. C'est pas merveilleux, les clients. C'est difficile et ça pose des problèmes. Et d'autre part, vous n'êtes pas confrontés aux autres, vos collègues, etc. Parce que contrairement à ce que l'on affirme partout, la coopération est quelque chose d'extrêmement exigeant et de difficile à vivre. Et puis, il s'est passé la crise de 1974. Les marchés se sont ouverts et on est arrivé, pour faire bref, dans ce que tout le monde connaît, tous ceux qui travaillent dans les entreprises connaissent, oui. Ce que l'on appelle faire plus avec moins. Alors faire plus avec moins, c'est quelque chose qui en apparence est impossible. Il faut donc trouver, comme disait Jean Pauli, une variable d'ajustement. La variable d'ajustement, ça a été l'organisation du travail. Et donc on est passé de nos organisations protectrices en silo à des organisations transversales dans lesquelles tout le monde doit travailler avec tout le monde.
Alors François Dupuis, est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour réussir à finalement accomplir l'impossible ou à faire l'impossible aux salariés, on a fait voler en éclats le système de travail tel qu'il le connaissait?
Bien sûr.
Pour quelque chose de, que vous qualifieriez comment?
Je le qualifierais d'extrêmement dur à vivre. Parce que je voudrais attirer l'attention de tous nos auditeurs sur le fait que malheureusement, on a couvert cette transformation du travail de mots très positifs, la coopération, la transversalité, le fonctionnement par projet, tout ce que vous voulez. Ce qui consistait en fait à mettre tout le monde en dépendance de tout le monde. Donc, on a rompu le deal traditionnel qui unissait les entreprises à leurs salariés. D'un côté, l'entreprise disait, moi, je te protège, au sens pas ton emploi, mais ton travail, je te fais travailler dans des conditions qui sont assez faciles et protectrices pour toi. Toi, le salarié, tu me donnes ton dévouement. Sous la pression des marchés, l'entreprise a rompu sa partie du deal, et ensuite, les gens, les cadres en particulier, ont rompu leur partie du deal, sont entrés dans une phase de désengagement du travail, et les entreprises, au moment où ils avaient le plus besoin de salariés engagés, ces mêmes salariés étaient en train de se désengager. À cela, les entreprises ont répondu malheureusement par la coercition, et l'état actuel du management, c'est un management coercitif. Et je reviens à ce que disait Corinne Berthaud il y a quelques minutes. La coercition, c'est ce trio infernal que vivent tous les salariés entre les process, les indicateurs de performance et les systèmes de reporting. Et ça, alors, ça fait peser sur les managers, sur les salariés, les cadres et les autres, des contraintes absolument épouvantables, et en même temps, ça ne marche pas. Et donc, nous sommes dans cette situation paradoxale où on essaie de contraindre tout le monde, on ne fait confiance à personne, et en même temps, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, si j'avais à résumer pour terminer mon propos, oui. Le management va droit dans le mur, et il y est, et certains patrons savent qu'il y est. Et on ajoutera à cela un point qui n'est pas négligeable, c'est que la pensée économique, aujourd'hui, a tué toute autre forme de pensée dans l'entreprise.
Dont la créativité, qu'évoquait tout à l'heure.
Oui,
Corinne
mais même
Berthaud.
Si vous dites aux gens, vous savez, quand même, il faudrait vous intéresser un petit peu aux organisations humaines, c'est difficile, oui. Il faut réfléchir. Stop, je réfléchis pas à ça, je réfléchis aux indicateurs économiques sur lesquels je suis jugé. Si je suis le grand patron, je réfléchis au roadshow que je vais faire. Si je suis moins grand patron, eh bien, j'ai mes résultats, mes indicateurs, etc., etc.
On ne peut plus clair. Allons du côté du standard. Un voisin dakarois qui s'appelle Simplice a des choses à échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Simplice.
Oui, bonjour Anne-Céline.
Soyez le bienvenu.
Merci. Bon voilà, j'ai écouté votre émission depuis le début.
Oui, merci.
J'ai écouté le petit reportage, oui, qui a été fait. Et je tenais à dire que je n'étais pas du tout d'accord avec ce manager que vous avez interviewé.
Oui.
Parce que, d'abord, il y a une chose qui me paraît essentielle dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit le manager n'est pas formé à ça. Et il parle de suite son exemple. J'ai dit, s'il n'est pas formé, il n'a rien à faire là, justement. Parce qu'il faut être formé à cela. C'est des techniques particulières, c'est une forme de gestion d'entreprise qui est tout à fait particulière. Et si on n'a pas la formation adéquate, évidemment...
On n'a rien à faire dans... Voilà, le poste de manager, pour vous, doit être réservé à quelqu'un qui est formé pour.
Eh bien oui, l'homme qu'il faut, parce qu'il faut, sinon, attendu tant de burn-out, ça s'explique. Moi, j'en ai 58 et...
Et vous n'avez pas connu de burn-out?
Jamais.
Bon, alors, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Et puis?
Et deuxième chose, quelqu'un a dit sur le plateau que le manager passe 50% de son temps à faire du reporting.
Nos deux invités sont d'accord avec ça.
Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec, parce que il faut savoir que le manager, le management, ce n'est pas une colonne vertébrale unique. Il y a des paliers. Il y a des paliers. Et donc, le général manager ou le senior manager a sous ses responsabilités un certain nombre de managers qui, eux, opèrent dans des domaines bien spécifiques et chacun intervient dans son domaine spécifique. Il y a des réunions de management hebdomadaires ou journalières ou mensuelles, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Et c'est au cours de ces réunions, justement, qu'on évalue ensemble, on analyse ensemble la voie qu'on est en train de suivre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année ou en milieu d'année ou tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas à passer son temps à faire du reporting. Autrement dit, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va présenter? Le reporting, l'ensemble des reporting, bien les résultats atteints.
Alors, tournons-nous vers nos deux invités, Simplice, puisque vous n'êtes pas d'accord. Alors, voyons où ça coince, François Dupuis.
Oui, je comprends très bien ce que dit notre auditeur. Mais vous remarquerez que notre auditeur dit « il faut ». Il y a la réalité.
Non, mais en fait, notre auditeur, notre voisin, est lui-même manager.
Mais j'ai bien compris.
Et quand il dit il faut, il parle de ce qu'il fait.
Excusez-moi, les premiers à dire il faut ou il faudrait, c'est les managers eux-mêmes, par définition. Donc, le il faut doit être confronté à la réalité. Alors, sur le premier point qu'il évoque, je voudrais attirer l'attention de notre auditeur sur un point. Quand on regarde la masse des managers, de ce qu'on appelle des cadres. Ils se divisent en deux catégories, les cadres experts d'un côté et les cadres encadrants de l'autre. La proportion des cadres experts ne cesse de croître, la proportion des cadres encadrants ne cesse de diminuer. Maintenant, quelle est l'origine de ces cadres encadrants? À l'origine, c'est des techniciens, c'est des gens qui ont appris une spécialité technique.
C'est peut-être le cas de Simplice, demandons-lui. Simplice, vous êtes un cadre expert ou un cadre encadrant?
Encadrant, justement.
Bon, voilà. Et alors, la plupart, je ne sais pas si c'est le cas de notre auditeur, encore une fois, il ne faut pas raisonner sur les anecdotes, il faut raisonner sur les faits, c'est-à-dire sur le modèle général. Dans le modèle général, la plupart de ces cadres encadrants ont une spécialité technique, réussissent bien dans leur spécialité technique, et du coup sont promus à des responsabilités de management. Et c'est ce qui fait qu'ils ne l'ont pas appris, ce management, puisqu'ils sont là à partir d'une connaissance qui est une connaissance technique. Et le drame, c'est que du coup, on les laisse en face de ça. Et j'ajoute un dernier point. Du coup, quels sont les outils qu'ils utilisent pour manager? Et ils l'utilisent en bonne foi, ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est ce qu'on appelle les outils de la connaissance ordinaire, de ce que les anglo-saxons appellent l'ordinary knowledge. C'est-à-dire, j'ai une impression, je sens les choses comme ça, ce qui peut avoir sa valeur. Mais ce que moi je dénonce, c'est que, franchement, depuis quand même des années, les sciences sociales nous ont appris des choses qui sont des choses pas si difficiles que ça, sur comment fonctionnent les organisations, comment on réagissent les humains, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, etc. Et toute cette connaissance
est
élaborée.
Ça ne suffit pas.
Mais ça suffirait si on permettait à ces managers de se les approprier. Ça n'est pas le cas. Et donc, on néglige tout. C'est comme si on demandait à un médecin de soigner après avoir fait 6 mois d'études. Voilà. C'est à peu près la même chose qui se passe dans
le management. Alors, Simplice, je vous propose d'écouter la réaction de Corinne Berthaud à vos propos. Et puis ensuite, je vous redonnerai la parole, Corinne.
Alors, Oui, je vais revenir sur la formation du manager. On peut pas apprendre. Alors, je vous juge pas, hein, pas du tout. Peut-être que vous avez ces qualités-là, mais on peut pas apprendre. Et ça, c'est pas une formation. On peut pas apprendre à aimer les gens. Il faut aimer les gens déjà pour être manager. On peut pas apprendre à avoir de l'empathie. On peut pas apprendre à être altruiste. On peut pas
mais
apprendre
je crois que
à être juste.
C'était pas le sujet de l'intervention de Simplice.
Quand il dit qu'il faut être formé pour ça,
oui.
On peut pas être formé.
On peut pas être
à l'empathie,
dans, à
etc.
Tout. D'accord.
Ça, c'est ce sont des qualités qu'on a ou qu'on n'a pas. Qui font partie justement d'une personnalité et d'une identité. Donc, on peut pas parler de formation.
En même temps, Corinne, on
technique.
Ne peut pas être manager uniquement en aimant les gens. Il y a aussi des qualités techniques qu'il faut pouvoir développer, non ?
Alors, ça,
je ne sais pas, je demande.
Je pense oui, bien sûr, mais la priorité quand même, c'est ces qualités-là.
Bon,
justement, et c'est parce qu'on les a perdues qu'on en est là aujourd'hui.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point.
Je suis convaincue que c'est parce qu'on justement, on est allé beaucoup trop sur la technique et qu'on a perdu toutes ces valeurs
fondamentales. D'accord. Et sur les paliers. Sur les paliers. 50 pour sur le reporting, Simplice vous reprochait.
Alors sur le reporting, c'est clair, hein, c'est une étude de la Ségos. Et effectivement, comme disait Monsieur Dupuis, et là où il a raison, c'est qu'il faut faire une distinction avec la réalité, ce qui est. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir que quand même ces processus de travail sont imposés. Donc à partir du moment où ils sont imposés, alors peut-être que Simplice a la chance de pouvoir travailler librement, mais ce qui n'est pas le cas dans toutes les structures, malheureusement.
Alors, peut-être justement
tout
que
là,
le nœud et le désaccord vient de votre cadre de travail, Simplice. Est-ce que vous êtes votre propre patron? Est-ce que vous travaillez pour une grosse entreprise, une moyenne?
Et je travaille dans un grand groupe.
Oui.
Et ce que renvoient
nos deux invités ne renvoie absolument pas à votre réalité parce qu'ils parlent
du réel,
des faits.
Non, pas du tout. Parce
mais peut-être parce qu'ils avaient une grande liberté de travail.
Tous les managers ont au moins un bac minimum plus 5. Ensuite, ils sont passés par des étapes successives dans l'entreprise avant d'arriver au top management, Et ils sont nommés en fonction des résultats obtenus, en fonction de leur qualité, justement. Et ces qualités, on a beau dire, quand on sort de l'école, quels que soient les diplômes avec lesquels on sort de l'école, mais c'est sur le terrain que des expérimentés, les plus anciens vous regardent faire et décèlent en vous des qualités compatibles au management, justement. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas formé, on est formé par l'expérience du terrain, en plus
de l'expérience
l'acquisition universitaire ou grandes écoles.
Très bien.
On
ne
peut pas dire qu'on est formé, on peut apprendre à menuiser pour être manager d'une entreprise de construction automobile, par exemple.
Très bien.
Donc, moi je pense qu'il faut faire attention à tout cela. Et puis, l'aspect humain. Bon, tout dépend de l'entreprise aussi, exactement. Moi, j'ai peut-être la chance de travailler dans une entreprise qui met l'homme au centre de tout et tout tourne autour de l'homme. Nos valeurs essentielles, c'est la reconnaissance de l'humain. Bon, donc, il y a peut-être de cela aussi, mais alors là,
bon, écoutez,
je ne reconnais pas la politique de l'entreprise.
Cet échange vous aura permis de vous rendre compte que vous avez de la chance, et puis à nous, de ce côté-ci, dans les studios à Paris, qu'il faut introduire de la nuance. Merci beaucoup, Simplice, pour votre témoignage qui était important. Et bonne journée à Dakar.
Merci, aussi.
Corinne Berthaud, vous faites, contrairement à Simplice que nous venons d'avoir, un constat d'échec dans le management, au moins en France. Et c'est ce constat d'échec qui est à l'origine du métier qui est le vôtre, manager de transition, un métier que vous vous êtes inventé. Racontez-nous.
Tout à fait. Comme disait tout à l'heure Monsieur Dupuis, Taylor n'est pas mort, hein, effectivement, d'une certaine manière. Et c'est là qu'il faut commencer. Et avec ces mutations-là, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux plus exercer mon métier, ma fonction, telle qu'elle pouvait exister avant. Non, la pression, quand on est manager, on l'a forcément. C'est pas une histoire de pression, c'est vraiment une histoire de... C'est des processus de déstabilisation qui sont mis véritablement en place.
De déshumanisation
aussi, encore une fois, à cause de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Monsieur Dupuis. Donc à un moment donné, je me suis dit comment je peux faire pour exercer ma mission, ma fonction, en étant détachée justement de ces contextes anxiogènes, anxiogène et j'ai donc décidé de devenir manager de transition. Alors, en quoi consiste le management de transition ? Je suis engagée par des dirigeants en tant que salarié.
Sur des missions ?
Sur des missions ponctuelles, c'est ça qui est très, très important. Alors, je suis pas... La distinction avec l'intérim, même si je prône l'intérim, parce que je crois qu'il faut y revenir dans un contexte comme le nôtre, la différence avec l'intérim, c'est que je ne cherche jamais à rester. Au contraire. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la mission. Et surtout pas d'être impacté justement par ces organisations,
alors, que vous
par
demande...
ces politiques.
Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quelles tâches on vous confie ?
Alors, j'ai évidemment, je suis intervenue dans de nombreuses missions, mais je vais par exemple reprendre des contextes complexes, type dépôt de bilan, des structures qui sont rachetées par des grands groupes, ou je vais intervenir dans des structures qui sont à la limite d'arriver à la liquidation judiciaire, et donc j'interviens à ce moment-là. Une fois je les remonte, je pars. L'état d'esprit, c'est justement, il est totalement différent d'un manager qui aujourd'hui a ces pressions-là, puisque là, ce que j'exige, parce qu'on peut se permettre d'exiger justement quand on est dans cet état d'esprit-là, j'exige d'avoir carte blanche de la part du dirigeant. Ça, c'est ma priorité. C'est vraiment un critère rédhibitoire et prioritaire pour moi, c'est-à-dire la possibilité de travailler librement et de pouvoir mettre en place effectivement tous les champs d'action. Et de gérer mes subordonnés comme je l'entends.
Donc, la confiance du dirigeant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que de manager frustré, vous êtes devenu thérapeute d'entreprise d'une certaine manière.
Thérapeute, oui, peut-être d'une certaine manière, parce que de toute façon, un manager, il est toujours un peu thérapeute, mais puisqu'il faut avoir quand même une certaine pédagogie. Mais
disons que vous laissez les entreprises mieux que vous ne les avez trouvées.
Ah bah ça c'est une certitude
parce que j'ai
alors justement vous faites bien de soulever ça parce qu'il y a un objectif hein. C'est un objectif de développement. Or aujourd'hui on a le sentiment qu'on est dans des objectifs aujourd'hui dans les structures de dégraissage parce qu'on pense que c'est peut-être le meilleur moyen de faire des économies rapidement dans une structure et c'est pour ça que le turnover grandit et justement moi quand j'arrive l'objectif c'est de développer, c'est d'engager, c'est de relancer voilà.
François Dupuis, est-ce que pour le sociologue spécialiste des organisations que vous êtes, il faut multiplier les Corinne Berthaud par 100, par 1000 en France, dans le monde. C'est la solution à un management défaillant ?
Alors, tel que Corinne décrit son métier, j'aurais tendance à dire non, puisqu'elle reprend des entreprises qui sont en difficulté, si je comprends bien. Donc finalement, il ne serait pas souhaitable qu'il y ait trop d'entreprises qui soient en difficulté, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si on multiplie Corinne Berthaud, c'est
l'idée,
quoi ?
Oui, c'est que ça va
bien,
de moins en moins bien.
Va dans l'économie.
Donc, alors, voilà. Comment faire pour qu'il y ait moins de Corinne Berthaud ?
Alors, pour qu'il y ait moins de Corinne Berthaud, c'est-à-dire pour que l'économie aille mieux, ça dépend de facteurs qui sont bien plus complexes que cela. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Corinne tout à l'heure.
Rapidement, parce que nous avons un auditeur.
Oui, mais qui m'a bien intéressé. Elle a parlé de l'empathie. C'est le mot que vous avez utilisé. Je crois à ce qu'elle vient de dire. Et vous voyez, dans le management, il y a un mix de deux choses. Encore une fois, je voudrais le répéter, il faut absolument sortir le management de la pensée paresseuse et de la connaissance ordinaire. Ça tue les entreprises. Aujourd'hui, on est dans une période que l'on appelle de relativisation des savoirs. C'est-à-dire, vous avez des choses que la science a établies, comme elle en a établi en médecine, comme en tout, et puis vous avez des gens qui disent « bof, moi je suis pas d'accord avec ça ». Eh bien, le « bof, je suis pas d'accord avec ça » a autant de valeur de ce que la science a pu montrer. Donc, il y a des choses que l'on sait sur le pilotage des organisations. Quand vous nommez un chef de projet et que vous lui dites « mon petit gars, tu te débrouilles, puisque t'es chef, les gens vont t'obéir », sans se poser la question de savoir qu'est-ce que le pouvoir dans une organisation et qu'est-ce qu'il faut contrôler pour obtenir la coopération des gens, c'est criminel vis-à-vis de ces gens que l'on nomme chef de projet. Mais en même temps, il est vrai qu'il y a des qualités individuelles, et celle qu'a dit Corinne, qualité de cœur, dit-elle, qui n'est pas un concept sociologique, mais je crois que je comprends ce qu'elle veut dire, qui sont des qualités importantes pour un manager, on ne peut pas le nier.
Recherche manager avec du cœur désespérément, allez, cap sur le standard de 7 milliards, on va à Ottawa, avec Patrick au 33 1 84 22 71 71, bonjour Patrick.
Bonjour Anesthésia.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, vous avez des solutions pour nous ?
Bon, moi, ce que je propose vraiment, c'est que cette nouvelle approche-là que prônent nos deux invités, qu'elle soit plutôt présentée à des chambres de commerce ou bien même des gouvernements, des sous-ministres, etc. Parce que tout autant qu'on cherche des solutions au niveau même des acteurs qui sont sur le terrain, individuellement des entreprises, ça va pas fonctionner parce qu'elles sont soumises à trop de pression, la pression du court terme, la pression des résultats. Dans un contexte concurrentiel, je vois pas comment ça va arriver à germer cette nouvelle façon de voir. Il faudrait que ça rentre dans un cadre plus large, au niveau des corporations, des chambres de commerce et autres, peut-être prôner où on valorise vraiment les entreprises qui développent ces nouvelles valeurs et qu'on les publicise et que c'est au courant qu'elles sont valorisées pour que les autres veuillent les imiter. Parce que tout autant que ça reste et que les invités approchent des entreprises individuellement pour leur proposer des solutions, ça va avancer, mais vraiment très à petits pas.
Vous êtes vous-même manager, Patrick ?
Absolument, et je suis même professeur à l'université d'Ottawa, donc je joue avec ces concepts-là.
Donc c'est l'expérience qui parle.
Absolument. Et également mes recherches, et je comprends très bien les concepts avancés par et les réalités qu'ils décrivent, mais moi je vois la solution à un autre niveau. La solution ne peut pas rester au niveau des entreprises individuelles, ça prendra trop de temps.
Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre réflexion. Belle journée à vous à Ottawa, Patrick.
Merci beaucoup, à vous demain.
François Dupuis, Corinne Berthaud, à quand un texte commun à proposer à nos gouvernants ?
C'est une réalité, je crois qu'on est d'accord avec Monsieur Dupuis, évidemment, puisqu'on acquiesçait l'un et l'autre dans le sens de Patrick. Effectivement,
ça commence par un livre,
il faut sensibiliser l'État, puisque vous rappelez
d'un point de vue légal
tout à l'heure,
sur quoi il faudrait agir.
Alors là, il faudrait effectivement, là j'en parle par exemple notamment dans mon ouvrage où on devrait sanctionner par exemple les managers aussi à un moment donné qui perpétuent ces processus de déstabilisation parce que
mais vous
aussi
nous avez bien démontré qu'ils étaient des marionnettes et des pantins au fond.
C'est ce que je disais. La première chose que j'ai dite, c'est qu'à un moment donné, ça doit aussi venir des managers qui disent stop à ce système-là parce que si vous voulez, est-ce que les hiérarchies, est-ce que les politiques ont vraiment conscience de ce qui se passe sur le terrain, peut-être pas. Donc il faut effectivement
François
à un moment donné qu'il
faut sanctionner les managers.
Non, sanctionner les managers dans des cas absolument exceptionnels. Mais je voudrais dire deux choses sur votre question, dont un propos un peu dur que vous m'excuserez.
Ou pas.
Le premier, c'est de dire, vous savez, on écrit beaucoup. La souffrance au travail, d'ailleurs j'ai vu dans le livre de Corinne qu'elle citait les classiques, hein, Christophe de Jour, vous avez cité Marie Pesé, etc.
Oui, donc il y a toute une littérature déjà sur le sujet.
Ce que je veux vous dire, c'est que avant les suicides de France Télécom, ça fait à peu près 20 ans que les économistes, les psychologues, les médecins, les sociologues, les praticiens avaient dit ça. Personne n'en a tenu compte. Le management est une activité réactive et jamais proactive. Donc, par contre, malheureusement, 20 suicides valent mieux que 20 livres. Voilà, et c'est dommage à dire, ça fait partie à nouveau de la connaissance ordinaire. Le deuxième point que je voudrais dire, et je vais être rapide, c'est Corinne est optimiste. Je trouve optimiste son propos. Je partage pas tout à fait votre optimisme, Corinne, pour la raison suivante. C'est que moi, je crois que ce qui fera changer les choses, c'est quand le coût de ce management paresseux. Moi, dans mon livre, je parle de la pensée paresseuse, du management paresseux, quand ce coût-là ressortira. Je vous rappelle qu'aujourd'hui...
Qu'est-ce que vous voulez dire par ressortir? Sanctionnant?
Je vais vous dire. Aujourd'hui, des économistes calcule le coût de la défiance. C'est-à-dire, ça coûte combien la défiance, même en termes de PIB? Globalement, ça coûte, par exemple, 1% de PIB. Eh bien, à un moment donné, le déficit de culture managériale, le déficit de culture dans les sciences sociales, ça représente un coût. Et ce coût-là, à un moment donné, va devenir trop pénible pour les entreprises, trop dur à supporter. Eh bien, c'est simplement la connaissance et la mise en évidence de ce coût qui fera que les choses changeront. Excusez-moi de ce propos, pas très optimiste et un peu réaliste.
Oh, je le prendrai comme votre mot de la fin. Et à vous, Corinne Berthaud.
Oui, justement,
qu'est-ce qui fera changer?
Quand on parle de défaillance, vous parlez justement, par exemple, dans votre ouvrage, Monsieur Dupuis, de désinvestissement, et pas seulement, justement, parce que effectivement, ça va coûter très cher à un moment donné. Vous rappelez les chiffres du coût à la sécurité sociale, 4% du PIB, et ça correspond au revenu de l'agriculture en France.
Oui.
Donc effectivement, le retrait, c'est pas seulement uniquement le désinvestissement, même si effectivement il s'opère de plus en plus dans les structures, mais il s'opère aussi par deux phénomènes. Le premier, encore une fois, ce sont les arrêts maladie, mais le pire, et pour rejoindre Monsieur Dupuis et pour accentuer là-dessus, c'est qu'on commence à arriver sur une vague de salariés qui opère maintenant, parce qu'ils commencent à comprendre que ce système n'est plus supportable, la vengeance.
C'est-à-dire?
Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des violences qui se mettent en place, parce qu'ils commencent à se révolter face à ces systèmes-là, parce qu'ils ne les supportent plus, tout simplement. Tout à l'heure, le premier témoignage disait « je ne supporte plus, j'ai fait de burn-out ». C'est-à-dire que tout le monde commence à comprendre, on en discute aux terrasses de café, on en dit tout. Donc, ces sujets-là s'invitent à table, à tous les dîners. Donc à un moment donné, on commence à comprendre qu'on n'est pas tout seul et que c'est vraiment l'entreprise qui est responsable. C'est-à-dire que la culpabilité, on commence à la laisser de côté. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on pensait qu'on était responsable. Aujourd'hui, on a bien conscience que ça n'est plus le cas.
Merci à vous, François Dupuis. La faillite de la pensée managériale, c'est aux éditions du Seuil. Corinne Berthaud, que vous venez d'entendre. Cette comédie qu'on appelle Le Travail, aux éditions Kalman-Lévy, deux livres à mettre entre toutes les mains. Merci à l'équipe 7 milliards. Les voisins, cette émission, vous pouvez la réécouter. Comme un pot de fleurs à la fenêtre, elle vous attend sur le site de RFI, www.rfi.fr, émission 7 milliards de voisins. À demain, nous allons à la rencontre de l'Atlas des femmes. Il s'agit d'un panorama des avancées et des échecs qui touche bien l'autre moitié du ciel. L'équipe 7 milliards, c'était Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Mallet-Solarts et Didier Cherouze. Un grand merci à je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des programmes de RFI et j'aurai donc grand plaisir à vous retrouver dès demain, 11h10, heure de Paris.